Du côté des États-Unis, parce que ça brasse pas mal là-bas, donc on va rejoindre le pitbull de l'analyse politique américaine, Raphaël Jacob. Je te le dis tout de suite, là, je veux pas faire de la région interne en ondes, mais ça vieillit mal, le concept.
Je voulais pas le dire.
On s'entend-tu que c'était la dernière fois qu'on le faisait jouer?
Je pense que oui.
Oui, oui, parfait. Benji, c'est bon, Benji, compris.
Tu sais que c'est drôle parce que juste avant que tu fasses jouer ça, Jérôme parlait de... Et puis là, je le cite, là, quelqu'un peut faire des études, être intelligent, puis complètement déraper des fois, puis avant de faire jouer le thème musical, je me disais, c'est peut-être votre... Nouvelle façon de me présenter.
Non. Non. Tu gardes la tête froide, comme dirait Jérôme. Oui. Tu gardes la tête froide. Écoute, on va parler de résultats électoraux. On est encore là, mais aussi, évidemment, de vaccination. Plusieurs trucs à aborder. Mais commençons par... Excusez, je vais être un peu sec, mais la claque sa gueule que Donald Trump a mangée hier, alors que la Cour suprême, là où il a nommé lui-même trois juges, a dit non. Non, il n'y en aura pas de recours, puis de recomptage, puis d'annulation, puis de ci, puis de ça. Là.
Le verdict, là, c'était 9 à 0. Ouch. La raison pour laquelle je le mentionne, là, c'est que à la Cour suprême du Canada, on est habitué aux décisions unanimes. En fait, on se demande quasiment à quoi servent les nominations des fois, parce que les juges ont toujours l'air d'être d'accord sur à peu près tout. Aux États-Unis, c'est loin de ça. Là. On a des décisions à l'arraché, 5-4, 5-4, 5-4 continuellement. Puis à chaque fois, on le sait, on s'en est parlé justement lorsque la juge Ginsburg est décédée là, il y a quelques semaines. Chaque fois qu'il y a un siège vacant, c'est une espèce de guerre, de bataille épique, parce que chaque vote à la Cour suprême peut faire basculer des enjeux sociaux énormes. Bref, c'est rare les décisions importantes à 9 contre 0. Hier, c'était unanime, puis comme tu l'as mentionné, c'est pas n'importe quelle Cour suprême, Joe. C'est une Cour suprême sur laquelle ou dans laquelle le tiers des membres a été nommé par Donald Trump. Et dans un... C'est même pas un jugement, une espèce de décision sommaire. On a rejeté ça complètement sur le revers de la main. Pas d'explication, parce qu'honnêtement, il y a même pas besoin d'en donner. C'est tellement absurde. Ce que ça vous montre, c'est que juridiquement, il y a rien à gagner pour l'équipe Trump là-dedans. Mais ce que ça montre aussi, c'est que cette game-là, elle n'est plus juridique, elle est politique. Le but des contestations répétées, c'est plus de gagner. Je pense que les personnes moindrement allumées dans l'entourage du président, puis ça inclut de ce qu'on en comprend le président personnellement, là, réalisent qu'ils vont pas gagner devant les tribunaux.
Est-ce qu'il a renié? C'est parce qu'on sait que quand il y a des gens qui sont proches de lui, il dit que c'est les meilleurs, mais dès qu'ils vont à l'encontre de ses décisions, ça devient des pourris, des ci, des ça. Mais là, on parle de juge de la Cour suprême. Là, j'ai pas trop suivi ses réactions. Est-ce qu'il accuse la Cour suprême d'être biaisée ou comment il a réagi?
Non, il y a rien là-dessus. Puis honnêtement, il peut comme pas, là, je veux dire. Surtout dans le cas, par exemple, de la juge Barrett, là, écoute, ça fait quoi? À peine un mois qu'elle a été confirmée. Je veux dire, ça serait ridicule de s'en prendre à elle. Puis c'est parce que c'est pas comme si on était à un juge ou à un tribunal près. Je veux dire, ils se sont fait débouter maintenant, littéralement, là, des dizaines de fois dans plusieurs États et à la Cour suprême fédérale, à la Cour suprême des États-Unis. Donc, non, c'est encore une fois que c'est plus une question juridique. Le but de tout cet exercice-là est de continuer avec les contestations. C'est politique. C'est de faire en sorte que le Parti républicain reste coalisé derrière Trump. C'est vraiment ça. C'est d'essayer de projeter une espèce d'image de battant comme quoi, jusqu'à la dernière seconde, la dernière minute, il va s'être battu. Il va avoir fait valoir son argument comme quoi il est le vrai vainqueur de cette élection-là, etc. C'est ça. C'est pas parce qu'on se dit, ah, oh, on a peut-être encore une chance de gagner et de faire renverser les résultats de 2020. Ça fait longtemps que même dans le cercle de Donald Trump, on a compris que ça allait juste pas se produire. Là.
C'est une pièce de théâtre, mais qu'est-ce qui s'en vient, Raphaël? Là, je pense qu'au cours des prochains jours, là, on va confirmer le vote des grands électeurs. Là. Je pense que c'est à mi-décembre, là, on approche de ça beaucoup. Y a-t-il encore une occasion de faire une pièce de théâtre là? Est-ce qu'il peut essayer de convaincre des grands électeurs de ne pas confirmer le vote dans un État? Qu'est-ce qui s'en vient les prochains jours là-dessus? Là?
Jérôme, la seule chose que je te dirais là-dessus, c'est que tant et aussi longtemps que Donald Trump va être vivant, il va toujours y avoir des occasions de faire des pièces de théâtre puis des shows. Oui. Ça va pas finir avec le vote du collège électoral qui est, soit dit en passant, prévu pour lundi. Donc, lundi. Le 14. Ça s'en vient bientôt. Mais, regarde, même une fois que ça va être fait, il va rester le vote formel au Congrès pour, entre guillemets, reconnaître les résultats du collège électoral. Ça va être au début janvier. Donc, on peut faire des sparages entre le 14 décembre et début janvier. Après ça, il va évidemment avoir toute la question dans les jours et les semaines qui vont précéder directement là, la sermentation de M. Biden, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que Trump est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il fait un rallye parallèle? Est-ce qu'il annonce sa candidature pour 2024? Bon, puis au-delà de ça, à partir de midi et une, le 20 janvier, la question qui, écoute, à laquelle on va avoir une réponse, je pense, seulement à ce moment-là, c'est comment il se comporte exactement comme ex-président.
C'est ça.
Et ça, des occasions, encore une fois, de faire des shows de boucan, c'est vrai qu'il va y en avoir moins que lorsqu'il était président, mais en même temps, il va y en avoir encore. Et ce type-là, non seulement conserve son compte Twitter, en tout cas pour l'instant, on verra ce que Twitter va décider de faire, parce que ce sera peut-être pour une autre chronique, mais disons qu'il y a un débat chez Twitter à savoir, est-ce qu'on va commencer peut-être à plus activement censurer le compte de Donald Trump une fois qu'il sera plus à la Maison-Blanche. Mais au-delà de ça, au-delà de son compte Twitter, il va conserver un, pardonnez-moi l'expression, mais un crachoir extrêmement considérable avec des dizaines de millions de personnes qui vont continuer de l'écouter comme ex-président et comme peut-être futur candidat présidentiel pour la prochaine élection. Fait qu'encore une fois, le show est très, très, très loin d'être fini, là.
Parlons de la vaccination maintenant, puis je comprends qu'il y a des implications politiques aussi là-dedans, là, dans la game politique, dans la transition. Hier, le président élu, Joe Biden, a dit que si le Congrès ajustait pas le plan d'aide, le financement, qu'il y aurait un problème avec la vaccination.
Oui, mais ça, avec la vaccination, c'est drôle, parce que c'est comme une espèce de symbole des contradictions aux États-Unis. Puis dans ce cas-ci, je pense qu'il faut le dire d'emblée, on a quand même droit à ce qui semble être un miracle médical, là, carrément. Là. Avoir créé autant de vaccins, parce qu'il semble y en avoir plusieurs qui fonctionneraient en si peu de temps, c'est vrai que c'est pas seulement grâce aux États-Unis, mais disons-le et reconnaissons-le quand même très clairement, c'est plus que n'importe quoi d'autre un accomplissement américain, ça. Et en même temps, aux États-Unis, c'est un petit peu le bordel au niveau de la vaccination, parce que de un, on ne sait pas si on va avoir toutes les doses qui avaient été promises pour les Américains. De deux, on ne sait pas non plus à quel point les Américains vont même vouloir se faire vacciner. Parce qu'il y a des, on se parlait de dizaines de millions de personnes qui allaient rester fidèles à Donald Trump. Il y a des dizaines de millions de personnes qui ne veulent carrément pas se faire vacciner.
Ça la firme Gallup, un peu, là. C'est un peu les mêmes, des fois, là. Hein,
c'est justement, il y a un, pardonnez-moi l'anglicisme, mais il y a un overlap, là. Ouais, disons, ça se chevauche. C'est impossible à manquer. Et c'est exactement ce que j'allais dire. La firme Gallup mesurait ça il y a à peine quelques semaines. On est à plus de 40 % de la population américaine qui ne veut pas se faire vacciner contre le coronavirus. C'est beaucoup de monde, cela, là. Et la différence statistique, elle est immanquable entre les électeurs démocrates d'un côté et en fait, tous les autres électeurs, donc les électeurs républicains et ce qu'on appelle les électeurs indépendants, donc ceux qui sont pas affiliés soit aux démocrates, soit aux républicains, ben là-dessus aussi, ils sont plus proches des républicains. Autrement dit, les démocrates sont seuls comme personnes voulant de façon majoritaire se faire vacciner. Tout le reste de la société américaine, c'est minoritaire, la proportion qui veut se faire vacciner présentement. Donc, beaucoup, beaucoup de résistance par rapport à un vaccin, certainement un vaccin obligatoire. Et on ajoute à ça, dans toute cette espèce de confusion-là, le fameux décret signé hier par Donald Trump.
Ça, c'est une pièce de théâtre, parce que ce que je comprends là-dedans, Raphaël, c'est que le gouvernement canadien a signé des contrats avec Pfizer, mais pour des vaccins qui vont arriver de la Belgique. Mais sauf qu'il a quand même signé un décret présidentiel hier où il demande à ces compagnies-là de prioriser les Américains avant d'envoyer des doses ailleurs. On est-tu dans la pièce de théâtre ou il y a peut-être une poignée réelle pour lui là-dedans?
Ben, c'est là que ça devient intéressant parce que tu utilises le mot « il demande ». Le décret fait plus que demander, il ordonne. Ouais. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que le président, justement, a le pouvoir d'ordonner non seulement à des compagnies, mais à des compagnies multinationales. Donc, c'est vrai que des gens comme Pfizer, évidemment, sont établis aux États-Unis. Ils sont pas juste établis aux États-Unis. Donc, est-ce que le président, avec un coup de stylo, de façon unilatérale, peut leur ordonner, dire « Écoutez, vous allez seulement exporter, ou en tout cas produire pour les États-Unis, tant et aussi longtemps que tout le monde qu'on veut vacciner aux États-Unis ne sera pas vacciné. Et avant ça, vous n'avez pas le droit de shipper en bon français où que ce soit ailleurs dans le monde. » C'est pas clair qu'il y a le pouvoir de faire ça. C'est loin d'être clair. Et l'autre chose qu'on ne sait pas, parce que justement c'est un décret unilatéral, c'est qu'est-ce qui arrive dans 6 semaines? Une fois qu'il s'en va, même si à la limite son décret était parfaitement constitutionnel, ce qui, encore une fois, est loin d'être évident, là. Qu'est-ce qui dit que Joe Biden va le maintenir? Un décret, c'est très fragile. Ça peut être renversé de façon aussi rapide que ça a été implanté, parce qu'encore une fois, c'est juste une action unilatérale du président. Donc, c'est bourré d'incertitudes. Et je dirais que le meilleur symbole, pardon, de ça, ça a été l'entrevue un petit peu surréelle qu'on a eue hier matin. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. À Good Morning America, là, la télévision nationale américaine, on demande au scientifique en chef aux États-Unis, celui qui a été mis là par Donald Trump pour coordonner la vaccination aux États-Unis, qu'est-ce qu'en est, justement, de ce décret-là? Le scientifique en chef de répondre, et je le cite, « Je n'ai aucune idée. » Et donc, évidemment, on lui demande comment est-ce possible que vous ne soyez pas au courant, c'est vous le scientifique en chef. Et essentiellement, le type répond, ben ça touche le président Trump, je me mêle pas de ça. Fait que ça a l'air, je vais juste te le dire comme ça de façon prudente, ça a l'air d'être un show de boucan plus qu'autre chose. Assez surprenant.
Mais politiquement, est-ce que ça met les démocrates puis Joe Biden quand même dans une position difficile parce que Donald Trump plaide la priorité aux Américains pour faire ça. Si Joe Biden dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, ben il a l'air de pas vouloir mettre les Américains au premier plan. Comment ils réagissent,
ça? C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un très bon point. D'un point de vue politique, c'est pas pour rien qu'il a fait ça. Et d'ailleurs, on verra comment Joe Biden va se comporter. Ce qu'on va devoir voir aussi, puis pour moi, c'est comme la question à $1 million, et je trouve ça incroyable qu'on la pose pas davantage, c'est, dans les médias tout au moins, ça prend combien de gens vacciner aux États-Unis pour atteindre l'immunité collective? Parce que la réalité, c'est qu'on le sait pas. On ne le sait pas. On brandit des proportions 60, 65, 70%. On le sait pas. De un. Et de deux, et là, je suis pas en train de dire que c'est une bonne stratégie d'un point de vue de santé publique, de tout simplement laisser les gens se faire infecter au coronavirus. Mais la réalité, qu'on aime ça ou non, c'est que on est à plusieurs dizaines de millions d'Américains qui ont été infectés, entre guillemets, de façon naturelle au coronavirus. Et donc, il y en a combien dans ces gens-là qui ont déjà une immunité ou tout au moins des anticorps? Tu combines ça à tous les gens qui vont se faire vacciner. On a besoin de combien de doses exactement? C'est bourré d'incertitudes.
Ça, quand est-ce qu'on dit, OK, là, on peut en donner aux autres, là, à partir de quel chiffre, quel pourcentage?
Exactement, ouais. Exactement. Mais en même temps, on le sait juste pas.
Tu sais, en même temps, regarde, écoute, je veux pas aller trop loin en même temps, là, mais les Américains aussi, il y a des Américains qui vont être d'accord à envoyer des doses ailleurs, tu sais. À quelque part, les Américains ont déjà fait des sacrifices aussi dans leur histoire pour le bien de la planète pendant les guerres et tout ça. Il y en a qui vont dire qu'il y avait des intérêts, vous avez peut-être raison, mais il y a quand même des Américains qui vont être d'accord avec ça aussi, que les compagnies américaines aident aussi d'autres nations à se protéger. Il y a une fierté
absolument. Là-dedans. Absolument. Et au final, il y a la volonté de la population américaine, il y a aussi la volonté, disons, mercantile ou commerciale des géants comme Pfizer. Eux sont pas dans le business, avec tout le respect, là, de juste faire dans l'humanitaire. Leur business, c'est de faire de l'argent. Et s'ils ont des contrats à honorer avec des gouvernements étrangers qui ont déjà signé, va peut-être falloir, disons, leur tordre le bras et pas à peu près pour qu'ils violent ces contrats-là. Ça va peut-être prendre pas mal plus qu'un décret présidentiel signé par un homme qui s'en va de la Maison-Blanche dans à peu près un mois et demi. Là.
Merci, Raphaël. On se reparle bientôt.
Merci.
All right, bye-bye.
Raphaël Jacob de la chaire Raoul Dandur. Quel spectacle, pareil, hein?
Ben, c'est ça. Mais, tu sais, sur la question des vaccins, là, ben, c'est un spectacle un peu triste. Moi, j'ai honte de la droite quand je vois ça. Là. J'ai beaucoup de gens qui me font honte de la droite ici au Canada et au Québec, mais lui, il me fait honte de la droite aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est parce que les contrats, juste pour finir sur les vaccins, peut-être pas tout le monde qui a suivi les détails, là, mais les contrats que le gouvernement canadien a passé avec Pfizer prévoient ça, justement. Ils ont pris la peine, pour éviter des mauvaises surprises, de faire inclure dans les contrats le fait que les vaccins vont venir, par exemple, de la Belgique, où Pfizer a une usine de vaccins.
Exact.
C'est pas un détail qui est pas important.
On semble avoir quand même pas pire de plan B. Là. C'est quoi, si tu sens, je pense que c'est dans l'article que tu as devant toi, 140 millions de doses qu'on a de réservées pour 38 millions de Canadiens. On disait même que dans le fond, en termes de nombre de doses pour la population, le Canada est peut-être même mieux positionné que les États-Unis. Là.
358 millions de doses de vaccins.
Tabarouette.
358. C'est du stock pareil, qui ont été commandés, là.
Fait qu'il y a une couple de commandes qui vont s'annuler, là. Ça, c'est sûr.
Ça se peut.
C'est sûr que des fois, le téléphone va. On prend le téléphone et dit, ouais, celle-là, finalement, on n'aura pas de besoin.
Ouais, on cancelle.
Voilà, on va canceller. OK. 25226, si vous voulez nous écrire pour réagir. Toujours plaisant de vous lire. 1-877-670-9330. C'est quelque chose de particulier à signaler à Benjamin. Il est 10h41.